Ami de la dernière séance, bonsoir. À votre...
Ah, mais je la connais, cette musique.
Ouais, c'est une vieille émission de cinéma, je crois.
Ah oui, j'en ai déjà entendu parler. La dernière séance, c'est ça?
Si, c'est ça. Mais pas de dernière séance ici. On t'emmène avec nous découvrir nos premières séances. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Première Séance, un podcast enregistré par les élèves de 4e D et 4e E du Collège Les Fontaines de Bouillargues. Suite à notre participation au festival Rencontres Animées, les 4 décembre et 7 décembre 2023.
Rencontres Animées, qu'est-ce que c'est?
2 jours, 2 lieux, 3 films, 3 courts-métrages, des collégiens, des élèves de la spécialité cinéma audiovisuel du lycée Philippe Lamour, des intervenants, des rencontres, des discussions, des questions, des découvertes, des frissons, des rires, des émotions et même des larmes.
Tout ça? Bah dis donc, ça a pas l'air rien ton histoire de festival.
Non, aller au cinéma c'est pas rien. Découvrir des films, ressentir des émotions, en discuter entre nous, y réfléchir, apprendre en découvrant des histoires, ça a peut-être l'air de rien, mais c'est pas rien.
On te raconte si tu veux. Viens, on t'emmène.
Première séance. Nous voilà partis du collège, direction le sémaphore à Nîmes. Après quelques péripéties dans les transports et sous la pluie, je te raconterai ça en off, nous voici arrivés. Nous rejoignons d'autres collégiens, on s'installe confortablement dans les fauteuils rouges, et c'est parti, noir dans la salle, le festival commence.
Pour se mettre en appétit, on commande un classique spaghetti agrémenté par une sauce western.
Je ne comprends plus rien là, vous êtes allé au ciné ou au resto?
Attends, je t'explique, tu vas tout comprendre. Le premier film que nous avons vu s'appelle Pour une poignée de dollars, et c'est ce qu'on appelle un western spaghetti.
Je ne comprends toujours rien à ton histoire de spaghetti.
Mais attends, je te dis, tu vas tout comprendre. D'abord, je te fais le pitch.
Le film se passe dans une petite ville, à la frontière entre l'Amérique et le Mexique. Dans ce bled, 2 bandes rivales s'affrontent. D'un côté, les Baxter, trafiquants d'armes, et de l'autre, les Rojo, qui font de la contrebande d'alcool, se disputent pour être les patrons de la ville. Un étranger arrive à dos de mulet. Il va faire ami-ami avec les 2 bandes et tirer profit des 2 camps à la fois.
C'est un malin, lui.
Oui, un malin. Mais dès la première scène du film, on comprend qu'il ne sera pas un héros comme les autres.
Ah bon? Pourquoi?
Pendant cette première scène, il laisse un enfant se faire battre par un adulte et il ne réagit pas. Rien. Aucune réaction. Pas un geste pour l'aider. Il observe la scène et s'en va.
C'est quoi ce mec? Vous êtes sûr que c'est un héros?
Oui, justement. C'est pour ça que Pour une poignée de dollars n'est pas un western comme les autres. C'est ce que c'est un western au moins?
Bah oui, quand même. Pour qui tu me prends? C'est le film américain, avec les Indiens, les cow-boys, les bacards de saloon, les duels, les chevauchés, un héros fort et courageux, et toujours une belle jeune fille à sauver à la fin que le héros finit par épouser. Les méchants contre les gentils, quoi. Et bien sûr, les gentils gagnent à la fin.
Dis donc, quelle culture! Je suis impressionné. Alors justement, tout ce que tu viens de dire, eh bien on ne le retrouve pas dans le film de Sergio Leone.
C'est qui lui?
Ah oui, pardon, je ne t'ai pas dit, Sergio Leone, c'est le réalisateur du film. Il va totalement réinventer le genre du western et jouer avec tous les codes. Pas d'Indiens, pas de personnages totalement gentils ou totalement méchants, pas de vrai héros qui veut faire le bien ou qui mène une grande quête. Dans Pour une poignée de dollars, la seule chose qui intéresse le personnage, c'est l'argent.
Mais il a pas un nom ton personnage.
Non, justement, même ça, il est différent. On l'appelle l'homme sans nom. C'est Clint Eastwood qui interprète le rôle.
Bon, du coup, s'il n'y a pas de vrai héros, je sais pas vraiment si j'ai envie de le voir, moi, ton film. Et puis, j'aime bien quand les gentils gagnent à la fin.
Si, je t'assure qu'il vaut le coup. Moi, par exemple, j'ai adoré le travail du réalisateur sur les différents types de plans. Ça donne une esthétique particulière au film. La famille Baxter, les trafiquants d'armes, sont associés à 2 lignes, et au contraire, les Rojo, ceux qui font de la contrebande d'alcool, sont associés à des arcs, les cercles. Et pour filmer le personnage principal, le réalisateur a mélangé les lignes droites et les arcs de cercle pour montrer qu'il reste à bonne distance des 2 clans, tout en profitant de la situation pour se faire de l'argent.
Et puis, les gros plans mythiques sur les regards avant que les personnages dégainent leurs armes, j'adore.
Moi, ce qui m'a plu, c'est la musique. Ça aussi, c'est mythique. Je l'avais déjà entendu, mais je ne savais pas que c'était la musique d'un film. C'est Ennio Morricone qui a composé la musique. Il a utilisé un tas d'instruments, de l'harmonica, de la guimbarde, des orgues, mais aussi des sons plutôt inhabituels, comme des enregistrements de cris ou de coups de fouet. J'ai trouvé que la bande-son exprime clairement l'ambiance de chaque scène et les sentiments des personnages.
Ouais, je suis d'accord avec vous. Il y a vraiment des choses géniales dans ce film. Mais j'ai pas trop aimé le côté violent. Ils passent quand même leur vie à se tirer dessus.
Oui, c'est sûr. Même s'il est différent des autres, ça reste un western.
Ah tiens, j'y pense. J'ai toujours rien compris pourquoi tu as parlé de spaghetti tout à l'heure.
Les western spaghetti, c'est tout simplement une catégorie de western réalisée par des réalisateurs italiens dans les années 60.
Voilà le cliché.
Ouais, j'avoue, mais c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, on te conseille vraiment de voir ce film au moins une fois dans ta vie. C'est un classique et en même temps, il se détache des autres westerns parce qu'il ne respecte pas tous les codes du genre.
La bande-son est incroyable. Oui, et Clint Eastwood aussi.
Il y a même une touche d'humour un peu décalée. Le héros qui chevauche un mulet, par exemple. Qui peut prendre au sérieux un gars en mulet ?
C'est clair, ou le fabricant de cercueils qui rigole dès qu'un duel se prépare. Bref, tu as compris, on a aimé pour la plupart d'entre nous, c'était notre premier western. Une vraie découverte.
Un petit pique-nique sous la pluie plus tard, et nous voilà de retour au sémaphore pour assister à la deuxième projection, Les Bêtes du Sud Sauvage de Ben Zetlin.
Yes, un film avec des animaux qui vont dévorer tout le monde, une espèce de Jurassic Park, j'adore.
Calme-toi, c'est pas tout à fait ça.
Ouais, tu m'as vendu du rêve avec ton titre, là.
T'inquiète pas, du rêve, tu vas en avoir. On te raconte ?
C'est l'histoire d'une petite fille, Hush Puppy, qui vit avec son père, Wink, au cœur du bayou, en Louisiane. Ils vivent dans une cabane avec très peu de moyens. Un jour, une violente tempête va provoquer la montée des eaux, et ils vont essayer de survivre.
Ouais, bof, ça a pas l'air très gai, ton histoire, hein.
C'est sûr que dit comme ça, ça fait pas rêver. Mais laisse-moi t'en dire un peu plus. La petite Hush Puppy, jouée par Kevin Zanewalis. D'ailleurs, l'actrice est incroyable, et c'est une petite fille très attachante.
Oui, ce qui nous a plu dans ce personnage, c'est son caractère qui est très nuancé. Elle peut être aussi courageuse qu'affectueuse.
Moi, c'est la relation qu'elle a avec la nature que j'ai aimée. Elle est libre comme les Hush Puppy. Ils n'ont presque rien et vivent dans un milieu naturel difficile. Le bayou, c'est pas Dubaï, si tu vois ce que je veux dire. Mais elle respire la joie de vivre. Elle fait partie de cette nature. Elle vit dehors. Elle respire.
C'est vrai ça. Et pourtant, sa vie n'est pas facile. Pas de maman, un papa alcoolique qui refuse de soigner.
Ça tombe bien que tu en parles, moi c'est justement la relation entre Hush Puppy et son père que j'ai aimé. Alors oui, il est alcoolique et parfois il est pas tendre avec sa fille, mais on sent qu'il aime et qu'il veut que sa fille devienne forte. Il veut la préparer à l'avenir.
C'est vrai qu'elle vit de sacrées épreuves, la petite. Moi, ce film m'a fait penser aux contes que je lisais quand j'étais petite. Elle vit des épreuves et toutes ces épreuves la font grandir.
Je suis d'accord avec toi. Il y a un côté très réaliste dans ce film. Les conditions de vie, la relation père-fille avec la maladie du père. Mais il y a aussi un côté magique.
Et les bêtes dans tout ça ? Non, parce que moi je dis ça, je dis rien, mais il y a quand même une histoire de bêtes, non ?
On va pas te spoiler le film, mais t'inquiète, il y a bien une histoire de bêtes.
Oui, il y a carrément un message écolo dans ce film. Le réchauffement climatique, il tient une place importante. En même temps, il a été tourné en 2012 et on commençait déjà à parler de plus en plus du réchauffement climatique. Tu te souviens de l'image du glacier en train de fondre qu'on voit plusieurs fois dans le film ?
Bien sûr ! Ou encore la tempête qui vient bouleverser la vie du bayou. Et cette phrase magnifique que prononce Hush Puppy.
Tout l'univers marche quand tout est à sa place. Si un morceau se casse, même un tout petit morceau, tout l'univers se casse. Quand tout est calme derrière mes yeux, je vois tout ce qui m'a fait voler en plein de morceaux invisibles. Je vois que je suis un tout petit morceau d'un très, très grand univers.
C'est beau, non ? Je crois que c'est ça qui nous a le plus touchés en ce film. Au début, tu penses découvrir une histoire personnelle, puis tu te rends compte au fur et à mesure que le message du film concerne chacun d'entre nous.
Oui, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. On se pose plein de questions après le film, on croit les personnages très différents de nous, mais en fait, on a beaucoup de points communs avec eux.
Ça a été vraiment une grande découverte pour nous, ce film. Il fait vraiment réfléchir sur l'avenir et aussi sur les relations parents-enfants, sur l'éducation. On te conseille vraiment de le voir, c'est un film qui apprend beaucoup sur la vie et qui nous a fait ressentir beaucoup d'émotions.
Oui, beaucoup d'émotions.
Eh ben dis donc, on dirait qu'il s'est passé des choses pendant ce festival.
Et attends, c'est pas fini. Le deuxième jour du festival, nous avons assisté à la projection de courts-métrages.
Oui, les élèves du lycée Philippe Lamour, qui sont en spé cinéma audiovisuel, avaient sélectionné pour nous des courts-métrages qu'ils nous ont présentés et diffusés à l'université de Nîmes.
Génial, et c'était comment ?
Super, et encore des découvertes, et surtout un super moment d'échange avec les lycéens.
On était un peu intimidés au début, mais finalement on a posé un tas de questions, et on s'est rendu compte qu'il y avait un tas de choses à comprendre et à analyser dans ce film. Ça a été une super expérience.
La chance, c'est que je commence à être jalouse, moi.
Et c'est pas fini, il reste encore un film. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais il faut absolument qu'on t'en parle.
Bon, en même temps, grâce à vous, je vais repartir avec plein d'idées de films à voir.
Celui-là, je suis sûre que tu vas l'adorer. Il s'appelle Interdit aux chiens et aux Italiens.
Qu'est-ce que c'est ce truc encore ? Interdit aux chiens et aux Italiens ? C'est quoi ce délire ?
C'est un film d'animation du réalisateur Alain Huguetto qui date de 2022.
Un film d'animation génial !
Tu vas voir, celui-ci n'est pas tout à fait comme ceux que tu as l'habitude de voir.
Allez, balance le pitch.
Alors Alain Huguetto, le réalisateur donc, raconte le parcours de sa famille, ses grands-parents plus précisément. Ses grands-parents ont quitté l'Italie au début du XXe siècle pour émigrer en France, en espérant y avoir une vie meilleure. Luigi Huguetto, le grand-père du réalisateur, traverse les Alpes et entame une nouvelle vie en France. Mais tout ne va pas se passer comme prévu.
Le réalisateur se posait plein de questions sur l'histoire de sa famille et ce film a été pour lui l'occasion de se plonger dans son histoire.
Ce film est en fait un dialogue entre le passé et le présent, entre le réalisateur et sa grand-mère Cesira.
Tout au long du film, on entend la voix du réalisateur qui interroge sa grand-mère et on voit apparaître sa main.
Mais que vient faire sa main ? Tu m'as pas dit que c'était un film d'animation ?
Si, si, mais je t'ai aussi dit qu'il était un peu différent des autres. Ce film a été réalisé en stop motion, tu veux que je t'explique ?
Je veux bien, parce que j'ai déjà entendu ce nom-là, mais j'ai aucune idée de ce que ça veut dire.
Le stop motion, c'est une technique d'animation en volume. En fait, pour réaliser un film en stop motion, on va utiliser des objets réels, ici des petites marionnettes, et donner l'illusion d'un mouvement naturel image par image.
On dit qu'il faut 24 images pour faire une seconde d'animation.
Mais ça représente un boulot de dingue.
Oui, oui, c'est un travail colossal. Alain Huguetto est vraiment allé en Italie sur la terre de ses ancêtres et il a ramené un tas d'objets de quotidien qu'il a utilisés dans le décor du film.
Il a ramené de la mousse, des châtaignes, du charbon pour fabriquer les montagnes, des brocolis pour faire la forêt, le sucre pour faire les briques et aussi une citrouille.
Je comprends mieux l'histoire de la main alors. C'est un vrai boulot d'artisan.
T'as tout pigé, c'est presque 9 ans de travail.
La vache ! Et pourquoi il a choisi ce titre ? C'est trop bizarre.
On va pas tout te dévoiler ici, mais quand ils sont arrivés en France pour travailler, les Italiens ont pas vraiment eu un accueil de fou, si tu vois ce que je veux dire.
Oui, oui, je vois très bien, oui.
Il y a plein de sujets abordés dans ce film. Ça raconte l'histoire perso du réalisateur, mais il y a aussi la grande histoire. Ils en ont vécu des choses, la famille Huguetto.
Leur vie n'ont pas été faciles. Le travail dur et physique, le racisme, les morts, les guerres.
Je sens qu'on va encore se marrer.
Non mais t'inquiète, grâce à la musique et au bruitage, on arrive à prendre de la distance face aux événements qui sont parfois tragiques.
Luigi ! Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du Mont Viso.
Antonio, imbécile !
C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, car je suis très intéressée par l'univers de l'animation 2D et 3D, mais aussi parce que l'histoire des Huguetto ressemble beaucoup à celle de ma famille.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté artisanal, le fait que tout soit fait à la main, bricolé, avec des petites choses, ça change des films d'animation qu'on a l'habitude de voir.
Le film est aussi original dans sa structure, il y a sans cesse des allers-retours entre le passé et le présent.
Ça m'a d'ailleurs un petit peu perturbé ça, au début.
Eh ben franchement, j'hallucine de tout ce que vous avez découvert pendant ce festival.
Oui, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais c'est vrai qu'on a découvert et appris beaucoup de choses.
C'est fou comment le cinéma peut à la fois nous emmener très loin, nous apprendre des choses sur les autres, mais aussi sur nous.
Bon, j'y vais moi, j'ai un tas de films à voir grâce à vous. Et surtout, pensez à moi, hein. L'année prochaine, je viens avec vous.